Lisons le titre ensemble. Message 4. Oh, le titre de la conférence. Le désir profond de Dieu et son bon plaisir. La Bible est une romance divine. La Bible est un livre merveilleux qui nous montre une histoire d'une romance divine entre deux personnes. Une personne, c'est entre Dieu lui-même, et l'autre, c'est entre l'homme qu'il a créé et aimé. Si vous avez vu le tableau qu'on vous a donné, peut-être que vous vous demandez si on va parler de tout cela. Afin de comprendre tout cela, ça peut prendre même toute votre vie. On a aussi le recouvrement traduit en français, la version recouvrement du Nouveau Testament. On n'a pas seulement une Bible qui est écrite, qui est la parole de Dieu, mais elle est même ouverte pour nous. La Bible nous a été ouverte. Alléluia! Nous avons toutes les révélations divines ici, dans toute la Bible. Nous allons essayer de couvrir. Selon l'histoire, une ligne de temps, une période de temps. Dieu avait ce désir profond. Je vais lire une section ici pour commencer. Ça dit que la Bible est très consistante de la manière qu'elle commence et qu'elle termine. Les deux premiers chapitres en Genèse, nous voyons l'arbre de la vie. Quoi d'autre? Le fleuve d'eau de la vie, le fleuve qui coule, et aussi les matériaux précieux, l'or, les pierres précieuses. Et les deux derniers chapitres de la Bible, nous voyons aussi le trône de Dieu et de l'agneau. Et un fleuve d'eau qui coule. Nous avons le fleuve des deux côtés. Des deux côtés, nous avons l'arbre de la vie. Mais en Genèse, nous avons des matériaux éparpillés. Mais dans Apocalypse, nous voyons les matériaux qui sont édifiés ensemble dans la Nouvelle Jérusalem. Nous voyons que tous ces matériaux sont parachevés dans un édifice. Quoi d'autre est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que nous touchons dans Genèse, dans les deux premiers chapitres? Adam et Ève. Nous avons Adam et Ève comme un type de Christ et l'Église. Adam est un préfigure de Christ. Lorsque nous voyons Adam, nous disons que c'est Christ. Lorsque le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce matin, le frère nous a montré que Dieu, il est parfait, omnipotent. Mais il manquait quelque chose. pensais que cela ne suffisait pas. Je ne veux pas sauter, mais je pourrais. Je parlerai d'ici. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez voir, lire dans Matthieu. Il y a un schéma. Pour sauver un peu de temps. C'est un diagramme de l'éternité passée, sans commencement, jusqu'à l'éternité future, sans fin. Avant la fondation du monde, dans Éphésiens 1, 4. La Bible nous dit que nous avons été choisis et prédestinés avant que le monde a commencé. Nous étions choisis en Christ pour être saints, pour avoir la pleine filialité. Ici, nous voyons le Dieu trinitaire avait un conseil. Dieu créa en Genèse. Dieu créa dans et aussi donc Dieu singulier créa pluriel. L'unique Dieu, à cause de son bon plaisir et son intention, il avait un conseil en Genèse, chapitre 1. Faisons, il a dit faisons, l'homme. Faisons l'homme. Voici l'homme. L'homme est le centre de la création de Dieu. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Avant la fondation du monde, il avait un bon plaisir, un désir profond. C'est que l'homme soit son vis-à-vis, contrepartie. C'est pas juste un homme individuel, Adam. Mais il a créé mâle et femelle. Il n'a pas créé un homme individuel, mais un homme corporatif. Et l'autre âge après, c'est la dispensation avant la loi, avec les patriarches d'Adam à Moïse. Ensuite, la dispensation de la loi. C'est le temps de l'Ancien Testament. Et en commençant avec la dispensation de la grâce, c'est le Nouveau Testament. La grâce et la réalité sont venues en Christ. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la réalité sont venues par Jésus-Christ. Puis après, nous avons la dispensation de la grâce. Qui a vu l'image de Hudson Taylor à Niagara sur le lac quand nous étions là? Ce frère-là, il a présenté les dispensations. « La parole nous a été ouverte surtout à travers les frères. Par exemple, l'Institut de la Bible Moody à Chicago nous a montré ses âges, ses dispensations. Dieu, il a un seul objectif. C'est pour l'homme qu'il soit son contrepartie, son complément. L'Ancien Testament est plein des types, des figures de la réalité qu'on voit dans le Nouveau Testament. Nous pouvons voir que tout cela dans l'Ancien Testament nous montre le désir de Dieu. Nous avons lu dans Ésaïe. Dans Ésaïe, que Dieu, celui qui vous a créé, votre créateur est votre mari. Dieu est votre mari. Même quand il les a amenés hors du désert, jusqu'à mon Sinaï. Oui, Sinaï. Dieu veut gagner son peuple non seulement pour l'adorer, la relation la plus profonde entre nous et Dieu, ce n'est pas de nous prosterner devant Dieu. Ma femme n'aimerait pas que je dise « lave mes pieds, où est les... » Je veux lire les nouvelles. Dieu ne veut pas que l'homme soit son esclave. Dieu veut l'homme soit, veut que l'homme soit son amoureux. David ne devrait jamais traiter sa femme de cette manière. Même dans l'Ancien Testament, c'est si clair. Votre Créateur est votre époux. Donc, nous ne devrions pas avoir ce concept religieux. Les enfants d'Israël ont dit que nous allons obéir à la loi. Nous ne pouvons jamais accomplir la loi. Ensuite, je veux parler de l'arrière-plan. C'est la deuxième venue, la seconde venue de Christ. La seconde venue de Christ. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cette question. Nous devons non seulement être sauvés, en tant que chrétien, mais nous devons aussi être des vainqueurs. Le royaume, c'est une récompense. Dans l'Ancien Testament, nous voyons dans les types, les symboles que Dieu se déplacer parmi les hommes. Mais ce n'était que juste après l'incarnation de Christ que Dieu a commencé de se déplacer à travers l'homme. Par l'incarnation du Seigneur, ce n'est pas le Noël, le Père Noël. Non. Ce n'est pas cela. C'est quoi l'incarnation? L'incarnation, c'est d'amener Dieu à l'homme. Nous n'avons pas cela dans l'Ancien Testament. Même l'âne a parlé dans l'Ancien Testament. L'incarnation, c'est pour amener le Dieu trinitaire dans l'homme. Dans sa vie humaine, Christ a vécu Dieu. Christ, avez-vous lu le livre Christ comme la réalité en anglais? Christ as reality. Nous voyons qu'il est l'offrande de fleurs de farine qui a vécu une telle vie pour Dieu dans sa vie humaine. Si Thierry, il est lépreux, il est couvert de lèpre. Si j'étais le Seigneur, je dirais, sois guéri, mais sans le toucher. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il aurait pu le faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché le lèpre, le lépreux. Et quand il marchait, quelqu'un l'a touché. Qui l'a touché? Il y avait tant de personnes. Il savait qu'une femme l'a touché parce que elle avait de l'eau, du sang qui coulait pendant des années. Et le Seigneur, elle a touché le Seigneur. Aussi, nous voyons sa mort, sa résurrection. Il est devenu l'Esprit qui donne la vie. Il est monté en ascension pour produire l'Église. Nous le recevons d'une manière individuelle. Dans son incarnation et sa vie humaine, sa mort tout inclusif, il a fait 5 choses. Et en résurrection, il est devenu l'Esprit qui donne la vie. Dans son ascension, il a 12 statues. Nous avons les 4 évangiles. Puis dans Apocalypse, je veux partager que Christ est devenu 3 choses. D'abord, la parole est devenue chair. Jean 1,14. C'était une étape du ministère de Christ. Les 3 étapes du ministère de Christ. Premièrement, c'est le ministère d'incarnation. Dans les épîtres, nous voyons qu'il est l'Esprit qui donne la vie pour produire l'Église. Il est devenu le Fils premier-né de Dieu. L'incarnation, l'inclusion et l'intensification. L'incarnation, c'est dans les 4 évangiles. L'inclusion, ce sont dans les épîtres. Et l'intensification, c'est dans Apocalypse. C'est le ministère complet de Christ, qui il est, pour produire l'Église. D'abord, dans l'incarnation, il a amené le Dieu infini dans l'homme mortel. Combien d'entre vous n'ont pas reçu le Seigneur ou n'ont pas été baptisés? Si vous n'avez pas, vous devez avoir cette expérience. Dieu qui est né en vous, vous devez recevoir Christ, la rédemption de Christ. C'est la fondation. Dans l'étape d'incarnation, il a accompli la mort à la croix. Il est mort pour vous. Alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce n'est pas une question de combien vous êtes bon. Mais si vous avez fait l'expérience de l'incarnation, c'est le fondement de notre salut. Ensuite, dans l'étape de l'inclusion, nous avons été régénérés. Il est venu dans notre esprit, c'est notre âme et corps. Il nous a régénérés. Il est devenu l'esprit qui donne la vie. Aujourd'hui, qui est le Christ que nous connaissons? Qui est-il? Il est l'esprit qui donne la vie. Il a marché sur cette terre il y a plus de 2000 ans, mais il est ressuscité. Et maintenant, il est l'esprit qui donne la vie. Le dernier Adam est devenu l'esprit qui donne la vie. Nous devons connaître Christ dans son inclusion. Il est passé par tous ces processus. C'est là où il a produit l'Église. Aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Puis dans l'étape de l'intensification, qu'est-ce qu'il fait? Cela se trouve dans Apocalypse. Si vous lisez Apocalypse, vous voyez qu'il est les sept esprits, les sept yeux de l'agneau. Il a été intensifié sept fois pour son salut organique, pour son salut dans la vie. Maintenant, nous devons faire l'expérience de son esprit sept fois intensifié. Dans cette étape, il nous produit comme des vainqueurs. Nous sommes maintenant dans l'étape de l'intensification. Christ est sept fois intensifié. Je prie que nous tous puissions voir que nous ne devons pas rester dans nos émotions, dans notre pensée. Nous pouvons être dans l'esprit régénéré. Et le connaître comme les sept esprits qui nous infusent pour être des vainqueurs, qui sont l'épouse de l'agneau. Est-ce que cela est clair? Je n'ai pas le temps d'aborder tout cela. En Matthieu 24, nous avons les signes de la seconde venue du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a besoin? De quoi a-t-il besoin pour revenir? Est-ce que nous sommes sous la loi? Non. Où sommes-nous? Nous sommes dans l'âge de la grâce, de l'Église. Si vous voyez le diagramme, aujourd'hui, Nous avons la question de la réalité du royaume. Nous avons aussi l'apparence qui est la chrétienté et la dispensation du royaume, la manifestation. Réalité, l'apparence et la manifestation. Si nous ne sommes pas dans la réalité, vous dites que vous êtes régénéré parce que la Bible vous dit. Je connais tous les termes. Peut-être que vous n'avez pas la réalité. Il se peut que vous soyez dans la vie de l'Église. Peut-être que vous êtes dans l'Église. L'Esprit parle aux Églises, mais l'Esprit appelle pour les vainqueurs dans l'Église. Ça veut dire que la situation de votre Église, de votre localité n'est pas si importante. C'est si vous êtes dans la réalité de l'Église. Si vous n'êtes pas dans la réalité de l'Église, vous ne serez pas dans la manifestation. Les 1000 ans, trop de zéro. Les vainqueurs ne sont pas super-héros. Ils sont des personnes normales, les croyants normales. Ils aiment le Seigneur dans leur émotion. Quoi d'autre? Ils vivent une vie où le Seigneur se répand en eux. Ce sont des personnes qui vivent Christ dans la vie de l'Église. Ces vainqueurs sont dans la réalité. Donc, au moment de la venue du Seigneur, ils recevront leur royaume comme récompense. Est-ce que cela est trop? Vous le comprenez? Si vous ne comprenez pas, levez vos mains. À travers le processus par lequel le Seigneur est passé, le Père dans le Fils, en tant que l'Esprit, se dispense en nous. Pourquoi Dieu est-il trinitaire? Nous ne savons pas, mais nous savons une chose, c'est qu'il veut se dispenser en nous. Il est devenu un homme. Le Père dans le Fils est passé à travers la mort, la vie humaine, l'incarnation, la vie humaine, la mort, la résurrection. Il est monté en ascension. Et celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. Aujourd'hui, nous qui sommes unis au Seigneur sommes un seul esprit. Si vous n'avez pas reçu eux, invoquons Seigneur Jésus. Si je dis Emmanuel, est-ce que j'appelle simplement un nom? J'appelle une personne. Si je dis Seigneur Jésus, l'Esprit est une personne, une vraie personne. C'est le Dieu trinitaire passé par un processus. Afin d'être sauvé, il faut invoquer Seigneur Jésus. Ô Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, c'est le commencement de notre salut. Si nous voulons être sanctifiés, il faut invoquer. Seigneur, entre dans mes émotions, entre dans ma volonté, entre dans mon intelligence. Ce n'est pas juste le salut initial, mais le salut de notre âme. Il nous mène tout le long du chemin. C'est le plein salut de Dieu. Avec cet arrière-plan, ici nous avons l'épouse, la mariée. Ici nous avons l'esprit et la mariée. L'esprit et la mariée. Mais dans l'éternité, nous avons l'épouse. Adam et Ève, l'esprit et l'épouse. L'épouse ou la mariée. Apocalypse 19. Ici, c'est Apocalypse 21. Sans cet arrière-plan, ça serait difficile de comprendre. Alléluia. Christ, il va descendre d'une manière ouverte des cieux. Mais nous voulons être enlevés. Lisons l'écriture, la lecture biblique. Est-ce que vous voyez toute l'image? Ça fait longtemps qu'il attend. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas revenu? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas revenu? Oui, en Matthieu 24, ça dit que l'évangile du royaume sera prêché. Nous allons toucher cela, oui. C'est une raison. Quoi d'autre? Est-ce que c'est à cause d'Israël? Que le temple n'a pas encore été bâti? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore revenu? L'épouse, la mariée n'est pas préparée. Toute la situation mondiale, la situation politique, la Corée du Nord, ils sont les tremblements de terre et tout cela. Mais sans que le corps soit édifié, il ne reviendra pas. Sans la préparation de l'épouse, de la mariée, il n'y a pas de nouvel homme. Nous sommes séparés par les races, les cultures. Il a besoin de l'unique nouvel homme pour revenir. D'abord, le corps est un sujet, une affaire de vie. Afin d'avoir le corps, il faut jouir de Christ en tant que vie. Lorsque nous servons ensemble, en jouant la guitare, même avec les voitures d'or, pour diriger les voitures. Ce sont des services extérieurs. Mais ce dont nous avons besoin, c'est de jouir de Christ. Lorsque vous vous rassemblez, de prier ensemble, nous voulons jouir de la vie et dispenser la vie. Le corps est un sujet de vie. et ensuite, par cette vie, nous allons fonctionner. Mais l'épouse, la mariée, est un sujet d'amour. Les jeunes gens font cela, une forme de cœur avec leur main. Ça doit être l'amour de Christ. L'amour par lequel Christ nous a aimés. Ce n'est pas notre amour naturel. Je ne sais pas ce que vos sœurs faisons du magasinage, buvons du thé ensemble. Je parle de l'amour dans l'incorruptibilité. L'incorruptibilité. Si votre amour va se corrompre, si c'est naturel, ce n'est pas l'amour qui va préparer la mariée. Et l'unique nouvel homme, c'est une affaire d'une personne. Par exemple, vous avez un bébé. Vous le chatouillez, jouez avec le bébé. Le bébé a la vie. Il boit du lait. Mais il ne peut pas prendre Christ comme sa personne. Le bébé doit grandir. Le bébé doit être aimé et doit aimer. Mais en plus, le bébé doit être élevé et grandir pour être une personne. Si vous êtes même 13 et 14, vous dites que vous pouvez faire vos propres décisions. Mais l'unique nouvel homme, c'est une personne mature. Si vous êtes un enfant, vous touchez quelque chose, vous vous blessez parce que vous n'avez pas appris encore. Nous devons prendre Christ comme la personne. Des bébés disent souvent non parce que leur personne est le moi. Faut pas enseigner un enfant de mentir. Christ doit être notre personne. Ce n'est plus moi, mais Christ. Mais Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ. Non pas seulement d'une manière individuelle, mais d'une manière corporative. Est-ce que nous pouvons prendre Christ comme notre personne? Est-ce que nous pouvons penser la même chose, avoir la même opinion, dire la même chose? En Philippiens, ça parle de Christ comme notre personne. À moins que nous ayons le corps édifié, coordonné, à moins que nous ayons la mariée qui l'aime, à moins que nous ayons le seul nouvel homme qui prend Christ comme sa personne, il ne peut pas revenir. Amen. Tournons. Je vais donner un résumé du message. Je vous donne 4 mots. Je vais utiliser 4 mots. Message 1. Qu'est-ce qui vous a touché dans le message 1? L'amour. Message 2. J'utilise le mot vie. Message 3. La parole. L'esprit. Message 1. Ce n'est pas les œuvres, mais c'est l'amour. Tous les croyants veulent travailler pour le Seigneur. mais nous devons simplement l'aimer. Et le résultat, nous pouvons mettre cela en pratique en invoquant le nom du Seigneur. L'expérience des cantiques. Je vais parler d'un sujet. Le problème, souvent, ce n'est pas que nous n'aimons pas le Seigneur, mais c'est que nous ne permettons pas au Seigneur de nous aimer parce que nous ne sentons pas dignes. Peut-être que vous pensez que vos parents ne vous aiment pas, vos amis, même vous n'aimez pas vous-même. Avez-vous lu le livre « Suicide, les problèmes mentaux, les personnes manquant l'amour » Dieu, il a tant aimé le monde, il est mort pour moi. Je suis touchée d'une manière personnelle. Est-ce que nous pouvons permettre au Seigneur de nous aimer? Arrêter d'essayer de lui plaire. Est-ce que nous pouvons permettre à son amour de nous contraindre? Le deuxième message parle de la vie. La vie et l'édification. La mort et la résurrection. Vous passez par l'expérience de vivre par la mort de Christ. Et après, nous avons la résurrection. Avec la parole, nous avons la mariée. Comment est-ce que nous pouvons rendre la parole logos en la parole réma, en priant, en lisant? Dernièrement, avec l'esprit, il faut boire et écouler. Ensuite, vous avez l'épouse. Par le lavage de l'eau dans la parole. Comment est-ce que nous allons préparer l'épouse? L'aimer. Ensuite, en vivant par la vie de résurrection, en mettant à mort les membres de notre corps. Ensuite, comment préparer l'épouse? En rentrant dans la parole. Comment? Est-ce que nous sommes préparés pour être la mariée? Boire de l'esprit et découler l'esprit. Nous ne sommes pas seulement baptisés dans un seul corps, mais nous buvons d'un seul esprit. L'esprit et la mariée disent « Viens ». Ils parlent ensemble. Même dans nos paroles, notre prédication de l'Évangile. C'est ça mon message. Lisons le plan. Nous allons voir le message 4. Lisons le titre ensemble. L'esprit et la mariée. Si vous avez la lecture biblique, vous pouvez les trouver, les versets. Lisons ensemble. Si vous l'avez, vous pouvez vous tenir debout et le lire. verset 2, et je vis 21:2. Et je vis la cité sainte Nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une mariée parée pour son époux. Le verset 9. Et un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept dernières plaies vint et me parlant disant, « Viens ici, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » Le suivant, c'est 22:7, Apocalypse. Verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Il y a trois avertissements ici. Ensuite, c'est verset 12 qui parle de la récompense. Voici, je viens bientôt et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ce que sera son œuvre. Tous les croyants seront dans la Nouvelle Jérusalem. Ensuite, le verset 20, Apocalypse 22:20, celui qui rend témoignage. Oh, juste verset 17. Et l'esprit et les mariés disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Lisons tous ensemble. Amen. Merci. Lisons le chiffre Romains 1, tous ensemble. Le désir profond de Christ est satisfait dans Apocalypse 21 à 22 avec le couple universel, le Dieu trinitaire et la Nouvelle Jérusalem comme son épouse, réunissent ensemble dans un mariage éternel. Apocalypse 21:2 parle de la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. C'est quoi la Nouvelle Jérusalem? C'est le mélange de Dieu et l'homme. C'est un couple universel, le Dieu trinitaire, passé par un processus et parachevé pour être l'Esprit. À la fin de la Bible, vous avez l'Esprit et la mariée. Les rachetés, les saints rachetés, régénérés, transformés, glorifiés. Et maintenant, les deux sont unis ensemble pour être un couple universel. Le Dieu trinitaire et son épouse ensemble. C'est un mariage éternel. La lettre A, frère. La Nouvelle Jérusalem sera la mariée dans le millénium pendant 1000 ans, qui est comme un seul jour, et l'épouse dans le nouveau ciel et la nouvelle terre pour l'éternité. Ici, ça dit que la Nouvelle Jérusalem sera l'épouse, la mariée. Dans le millénium. Vous pouvez ajouter le verset Apocalypse 19:7. Réjouissons-nous et exultons, car le mariage de l'agneau est venu et son épouse s'est parée. Voyons, c'est Apocalypse 19 et non pas 21. Je lirai la note 17. Oh. Les mariés de Christ se composent uniquement des vainqueurs, des croyants vainqueurs dans le millénium. Mais L'épouse dans chapitre 21 se compose de tous les croyants. Donc, le fait que la mariée soit préparée aujourd'hui dépend des vainqueurs. Les vainqueurs ne sont pas des individus séparés, mais ils font partie de la mariée collective. Pour cela, il faut avoir l'édification. Apocalypse, c'est quel chapitre ici? 19? Oh, c'était Apocalypse 19:7 qu'il lisait tout à l'heure, pas 17. Nous avons besoin de ceux qui sont mûrs et matures dans la vie. Il faut permettre à sa vie de nous saturer pour que nous soyons des vainqueurs, pour que nous soyons au festin des noces. C'est quoi le plus long festin des noces? 8 jours, 10 jours. Pour les vainqueurs dans le millénium, c'est combien de temps pour le festin des noces? C'est 1000 ans. 1000 ans. De quoi avons-nous besoin aujourd'hui afin que le Seigneur revienne? Il a besoin d'une armée. Peut-être que vous êtes toute seule à Halifax ou avec une autre sœur quelque part à votre université. Vous vous sentez seule, que vous ne pouvez pas avancer. Tout le monde est occupé. Et je suis toute seule. Qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez aimer le Seigneur. Jouir de Christ comme votre vie. Prier et lire la parole. Vous pouvez boire l'esprit. Exercer votre esprit et prêcher l'évangile. Priez pour un compagnon. Vous devez être édifié avec l'Église. Vous n'êtes pas seul. Vous avez tous les saints. Vous devez grandir dans la vie et édifier afin de devenir les vainqueurs. C'est où l'endroit le plus loin? Medicine Hat, près de Calgary. Si vous venez au voyage de mélange, aux conférences, à la formation collégiale, c'est le temps. Si vous êtes exercé dans votre localité, dans votre école, mais à ces temps-là, ce sont des temps collectifs pour avoir le guerrier. Satan est écrasé sous nos pieds. Alléluia. Lorsque vous êtes dans l'esprit, vous avez la réalité de tout ce que Christ a fait. Où est Satan maintenant? Il est sous nos pieds dans le lac de feu. Où sommes-nous? Nous sommes dans la résurrection, même dans l'ascension, assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Il faut être dans l'esprit. Amour, la vie, la parole, l'esprit. Cela va nous rendre vainqueurs. Revenons au plan à B. Puisque la Nouvelle Jérusalem est la mariée, nous ne devrions pas la considérer comme une vie matérielle. Il est impossible qu'une entité matérielle soit la mariée. J'étais à Anaheim, j'écoutais une radio. Un pasteur a eu un rêve. Un rêve de Jésus qu'il a vu 2000 pieds. La Nouvelle Jérusalem avec une rue d'or. C'est quoi votre nom? Brian? Si vous êtes pauvre, c'est pas grave. Nous sommes des pèlerins. Mais attendez jusqu'à ce jour-là. Vous serez riches. Il y aura des rues d'or. On peut jouer du golf même avec les bâtons d'or. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut croire en Jésus, sinon vous allez à l'enfer. Mais si vous croyez, vous pouvez aller au ciel et jouer au golf. Non. Est-ce que la Nouvelle Jérusalem est une ville physique? Apocalypse est un livre de signes. Voyez l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu et l'agneau. Est-ce que c'est un agneau physique? Non. Ne pensez pas que c'est une ville physique. Apocalypse 1:1 dit que c'est un livre de signes. Mais j'aimerais ajouter une note que nous pouvons lire ensemble. Pour vous montrer, c'est dans Apocalypse 22, verset 21, le dernier verset, note 3, 21:3. Je vais lire la note. La Nouvelle Jérusalem, le dernier élément majeur révélé dans ce livre, n'est pas seulement la conclusion de toute la Bible, mais aussi la consommation ultime de tous les éléments importants qui sont révélés dans la Bible. En Genèse, nous voyons Adam et Ève. Nous voyons le parachèvement dans Apocalypse. Le Dieu Trinitaire, l'économie du Dieu Trinitaire, la rédemption de Christ, le salut de Dieu, les croyants, l'Église et le royaume sont tous consommés dans la Nouvelle Jérusalem. Qui est le summum de la consommation? Ainsi, dire que la Nouvelle Jérusalem est une ville physique est illogique. Cela ne correspond pas au principe de ce livre qui utilise des signes pour révéler les choses mystérieuses. D'après toute la révélation de la Bible tout entière, la Nouvelle Jérusalem, la conclusion de toute la Bible, est un mélange divin du Dieu Trinitaire, passé par un processus et de l'homme tripartite racheté et transformé. Un mélange de la divinité et de l'humanité qui a pour résultat une personne mystérieuse, universelle et collective. Cette personne est 1. L'épouse de l'agneau. 2. La consommation ultime du tabernacle de Dieu et du temple. En tant que demeure mutuelle de Dieu et de l'homme. 3. La consommation ultime du travail de Dieu qui fit de l'ancienne création une nouvelle création tout au long des générations. Et 4. La consommation ultime de l'économie éternelle de Dieu et de ses accomplissements divins. La Nouvelle Jérusalem, c'est quoi? Le mélange de Dieu et l'homme. Le Dieu trinitaire avec moi, avec nous tous. C'est la consommation ultime. L'esprit et la mariée pour l'éternité. Lisons cette note. C'est. Lisons ensemble. La mariée sera composée de tous des saints rachetés, régénérés et transformés de Dieu. Sœur D. Ceci est le parachèvement ultime de la romance divine révélée dans la Bible. Vous avez toutes les références de l'Ancien Testament dans Ésaïe. Mais maintenant, nous avons l'accomplissement. Lisons chiffre romain 2 ensemble.
Sans préparation, nous avons des A. C'est très intelligent. Si tu veux avoir des A, vous avez besoin de payer le prix. Quelques-uns veulent juste passer à travers l'école. J'essaie juste de survivre. Qu'est-ce que je fais d'abord? C'est très dur à l'extérieur. Frère Ricky a fait un sondage avec les parents dans la région du Nord, avec les jeunes gens. C'est quoi que vous êtes concerné? Dans les États-Unis, il y a le contrôle de l'arme à feu. Mais nous, qu'est-ce que nous sommes concernés? Au Canada, peut-être nous sommes plus conservés. Peut-être c'est les relations. Dans l'école. Les jeunes gens dans l'école, qu'est-ce qu'ils sont concernés? Le travail, l'argent, le temps, les amis, et quoi d'autre? Les relations, et quoi d'autre? Les notes, la santé, oui. L'état de financier. Toutes ces choses-là. Qu'est-ce que ces choses ont rapport avec moi? Et lorsqu'on parle de le désir de Dieu, de Christ revenir, et nous qui préparons son avenant, doit avoir le même désir que lui. Le matin, lorsque nous n'avons pas le temps, oh, désolé Seigneur, j'ai plus le temps avec toi. Beaucoup de fois, je veux partir avec mes amis au party. J'ai pas le temps pour le Seigneur. Je parle pratiquement. Si nous voyons vraiment ceci, vous savez, les suicides, aujourd'hui, les jeunes gens, il y a beaucoup de pression. Beaucoup sous pression. Plus que mon âge à moi. Des gens de mon âge. Emmanuel, est-ce que les jeunes gens maintenant ont plus de pression? Je pense que oui, parce que le monde s'intensifie. Nous voulons avoir plus de bons des notes pour avoir un bon travail. Nous avons plus de soucis. Si nous aimions les autres choses, l'amour de Dieu n'est pas en nous. Les choses du monde, c'est le désir de notre yeux. La convoitise de notre chair. Il y a quoi d'autre? Et aussi les anxiétés, les choses que nous soucions. Est-ce que nous pouvons faire confiance à Dieu qui est celui qui a créé l'univers, est en nous présentement et il sait combien de cheveux qu'on a sur notre tête et s'il y a un cheveu qui tombe. Il connaît le nombre de nos cheveux. Alors pourquoi nous soucions des choses de ce monde, les notes, nos futurs? Je veux vraiment dire que le Seigneur doit toucher notre cœur. Qu'est-ce que nous aimions? Nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Nous, si nous ne l'aimions pas, nous ne pouvons pas l'aimer ce qu'il aime, ce que le Seigneur aime. Je ne veux pas aller prêcher l'Évangile, je ne veux pas aller aux réunions. Et la parole? Oh, la parole sainte, c'est quoi ça? Je ne peux pas le prendre. C'est quoi exercer l'esprit? Pourquoi j'exercerais mon esprit? Nous sommes dans deux royaumes. Que le Seigneur nous recouvre notre amour. Et ça commence avec notre amour avec lui. Seigneur, nous aimons. Nous t'aimons. Seigneur, je t'aime. Seigneur, oh Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Le Seigneur a dit à Pierre, tu m'aimes plus que ça. Trois fois, nous sommes tous des pierres. Je serve à temps plein. Combien de fois que j'essaie de m'enfuir? Je ne sais pas combien de fois, au moins sept fois. Je dis au Seigneur, je ne peux pas continuer avec toi. J'étais comme Pierre. Nous sommes tous comme Pierre. Nous renions le Seigneur durant les choix qu'on prend. Même renier le Seigneur devant un petit enfant. Mais devant le Seigneur, j'ai dit, non, je ne vais jamais te renier. Je vais mourir pour toi. Mais une minute après, je vais dire, oh, je jure que je ne le connais pas. Mais le Seigneur a besoin de venir et nous toucher avec son amour. Amen. Que le Seigneur touche notre cœur. L'aimer avec tout notre cœur. Pour qu'on puisse sentir la désespération. Point A. Les sœurs. Christ exprime son désir de venir pour sa mariée préparée dans Apocalypse 22 où il nous avertit trois fois, je viens bientôt. Je viens bientôt. Amen. Ça peut être amen en nous ou un avertissement aussi. Peut-être nous allons dire, Seigneur, je ne suis pas prêt, donc ne viens pas encore. Donnez-moi encore un peu plus de temps. Je sais que tu es miséricordieux. Ne viens pas encore. Mais le Seigneur nous dit, c'est un avertissement. Je viens bientôt. Rapidement. Il va venir. Frère, point B. Le mot vient est trouvé trois fois dans Apocalypse 22, 17. Petit 1. Les sœurs, la première fois que ce mot apparaît se réfère à l'avènement du Seigneur Jésus. Viens est la réponse de l'Esprit et de la mariée à la parole du Seigneur concernant sa venue. En étudiant les prophéties dans la Bible et en vérifiant la situation mondiale actuelle, nous savons que le jour de la venue du Seigneur est très proche. La Bible entière se conclut par le désir de la venue du Seigneur qui est exprimé dans cette prière « Viens, Seigneur Jésus ». Nous devrions aimer l'apparition du Seigneur et hâter avec une attente et une joie sincère. Le déplacement ultime du Seigneur est en fait l'évangile du royaume. Lorsque nous demandions, c'est quoi les signes que tu as avant que tu reviennes? Matthieu 24, 25. Premièrement, c'est le sujet de la vie. Est-ce que nous sommes transformés dans notre âme? Pas seulement sauvés dans notre esprit, mais transformés dans notre âme. Ça, c'est l'esprit. Ça, c'est l'huile dans notre lampe. C'est pour... Est-ce que nous exerçons notre talent? Est-ce que nous le enterrer ou l'exercer? Et l'injustice se remplisse ce monde. Les gens collégiaux à Toronto, il y a une personne qui a conduit un van pour tuer le monde. C'est une personne qui ne voulait pas vivre. C'était tragédie. L'injustice et nous avons besoin de l'Évangile. Mais ceux qui l'endurent jusqu'à la fin vont être sauvés. Donc, nous avons besoin de garder sa parole. Jouir de sa vie, lire la parole, exercer l'esprit et joindre à lui à l'esprit. Pour être sauvé, si tu regardes la note dans Matthieu 24, pour être sauvé, c'est de recevoir le royaume comme la récompense. Une façon de le sauver, c'est le verset juste précédent, c'est prêcher le royaume l'évangile du royaume. Une façon, c'est endurer, mais aussi de prêcher cet royaume l'évangile du royaume aux nations. Pas seulement nous avons besoin de prêcher cet évangile du royaume, mais nous avons besoin d'un témoignage de l'Église comme l'épouse qui aime Christ comme son corps qui l'exprime, comme son l'homme, la nouvelle homme qui est un avec le Seigneur pour combattre. Les vainqueurs, qu'est-ce qu'ils font? Comment être sauvés? C'est endurance jusqu'à la fin. Prêcher l'évangile du royaume n'importe où, dans le campus. Donner des tracts. Ne manquez pas cette opportunité. D'où ce que nous sommes, ne manquez pas cette opportunité. Les frères, point 2, 3. Deuxièmement, celui qui entend l'esprit et la mariée se joigne à eux en disant « Viens ». La troisième mention du mot « vient » dans ce verset se réfère à la venue des pécheurs qui se sont repentis. L'Esprit et la Marie aspirent que les pécheurs assoiffés viennent prendre l'eau de la vie pour une pleine satisfaction. Quand nous avons un désir sincère pour la venue du Seigneur, nous nous soucions aussi sérieusement du salut des autres. Si nous arrosons les autres, nous serons arrosés aussi. Et si nous prenons soin des autres, nous serons soignés aussi. Premièrement, nous avons besoin des désirs. Deuxièmement, Le Seigneur dit, je viens rapidement, c'est concernant la récompense. Troisièmement, c'est concernant les pécheurs. Pour cet évangile du royaume, si nous buvons de cette fleuve, nous allons découler. L'esprit et l'épouse disent, viens. Nous amenons les autres. Premièrement, nous avons besoin de venir. Et après, les autres s'en viennent pour jouir Christ comme l'esprit de l'eau de la vie. C'est le fait que l'esprit et la mariée parlent comme une seule personne, ainsi qu'ils sont devenus un. L'esprit est le parachèvement du Dieu trinitaire. La mariée est l'église achevée. L'église doit être achevée afin qu'il y ait une vraie unité entre l'esprit et la mariée. Par conséquent, le parachèvement de l'église correspondra au Dieu trinitaire pour être son expression complète et sa satisfaction pour l'éternité. À la fin, l'esprit et l'épouse, c'est ce que nous avons vu, est en union en vie. Mélange en nature, élément et en nature, c'est le deuxième message. Et aussi incorporé dans sa personne. C'est une union, c'est un mélange, c'est une incorporation du Dieu trinitaire avec la personne tripartite corporative. Qu'est-ce que nous disons? Viens, Seigneur Jésus.